Nous sommes des professionnels de l'éducation du Conseil scolaire Viamonde dans le sud de l'Ontario. Comme nous ne sommes plus titulaires, nous n'avons pas de classe.
Quoi?
En effet, parce que nous collaborons avec différents leaders des différents dossiers, parce que nous accompagnons les enseignants en salle de classe et que nous inviterons des experts dans nos différentes conversations, on peut dire que nous avons
toute
la
classe.
Nous allons vous proposer différentes séries sur des sujets tels que le bien-être et l'engagement, en plus de faire l'intégration de différents sujets tels que les mathématiques, la technologie et bien plus encore.
Cette année, vous aurez également la chance d'entendre des accompagnements en direct et vous pourrez participer à la conversation sur les médias sociaux. Abonnez-vous dès maintenant! Bonjour Vicky, bonjour Mylène.
Allô Jen.
Bonjour Jen. Et allô à notre invitée. Bonjour Mariam.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, on a une de nos collègues avec nous. Je vais te demander, Mariam, de te présenter et de nous expliquer un peu c'est quoi ton rôle au sein du Conseil scolaire Viamonde.
Donc, je suis conseillère pédagogique avec les écoles sécuritaires et bienveillantes. Je m'occupe notamment du dossier sur la pédagogie sensible à la culture. Mais puisque on s'occupe de plusieurs d'autres dossiers, puis que les dossiers sont aussi interreliés, je travaille sur les dossiers en lien avec la justice sociale, l'équité, l'intimidation et l'inclusion. Donc, c'est ça en gros.
Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi, quelle est la définition de la pédagogie sensible à la culture?
La pédagogie sensible à la culture, c'est une façon d'enseigner qui prend en considération la culture des élèves, en gros. Beaucoup des lectures que j'ai faites sur les pédagogies sensibles à la culture parle du fait que pendant des années, on pensait qu'enseigner aux élèves ou aux gens de la même façon à tout le monde, c'est la meilleure façon de faire. Donc, approcher tout le monde de la même façon et puis rentrer tout le monde dans un moule quelque part. Mais on se rend compte que la culture et le bagage des élèves est important. Donc, comme on le fait pour tout, on prend les connaissances antérieures, on essaie de différencier par rapport au style d'apprentissage, par rapport à la façon d'apprendre de l'élève, on s'est rendu compte aussi que le bagage culturel dans lequel les élèves évoluent ou ont grandi, que ce soit par rapport à un pays d'origine ou par rapport au ménage à la maison, c'est aussi quelque chose d'important à intégrer dans la pédagogie.
Ben, Mariam, peux-tu me préciser un petit peu, comme si je suis enseignante en salle de classe et j'ai des élèves de plusieurs pays, de plusieurs origines, de plusieurs cultures dans ma classe, ça veut dire quoi pour moi? Est-ce que je dois connaître la culture de tous ces élèves-là? Comment est-ce que je différencie mon approche pour être sensible à la culture?
Ce n'est pas nécessaire de connaître toutes les cultures, puisque de toute façon, je pense que c'est impossible de connaître tout le bagage culturel, que ce soit le bagage culturel qu'on voit comme la langue, la musique, la nourriture, ou le bagage culturel qui est un petit peu moins visible. Quand on parle de contact visuel, du temps de la voix, parler avec les mains ou sans les mains, tout ça, c'est des choses qui font partie de la culture aussi. Maintenant, si on est en classe, le fait de poser les questions, comme pour connaître nos élèves, avoir un profil de classe, on pose des questions aussi pour s'informer. Considérer le bagage culturel, c'est aussi communiquer avec les élèves, poser des questions pour faire des liens avec leur connaissance, avec leur façon de fonctionner. Non seulement du côté académique, de la façon dont ils ont appris peut-être avant, surtout s'ils sont des élèves qui sont nouvellement arrivés, mais aussi poser des questions par rapport à leur façon de s'exprimer. Par exemple, des fois, c'est de la timidité On pense que c'est un élève est timide, mais c'est pas nécessairement de la timidité, c'est peut-être que parler trop ou être trop présent dans un cercle n'est pas culturellement acceptable. Le fait de parler trop fort ou de parler trop bas aussi, peut-être que ça, c'est des choses qui pourrait être insultant pour certaines personnes. Le contact visuel, si on ne me regarde pas, je pourrais prendre ça comme non respectueux. Mais le fait de poser les questions et puis d'essayer de comprendre ces petits gestes-là, ça nous permet d'être un petit peu plus acceptant et bienveillant. Qu'on ne prenne pas, qu'on a nos biais inconscients, qu'on ne prenne pas ça comme acquis et puis qu'on essaie de mieux connaître nos élèves de ce côté-là. Aussi, si on a au début, on pose des questions aux élèves et puis où on fait des projets pour se présenter, par exemple, d'où est-ce que vous venez ou c'est quoi votre culture d'origine ou où est-ce que vous sentez que vous appartenez. Ça nous donne une idée sur les endroits. Puis juste avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ça, juste une idée générale sur ça, ça pourrait aider à être plus sensible à cette culture-là.
Alors, valoriser la culture, en valoriser. Parler, puis que ce soit visible aussi en salle de classe.
Oui, c'est des choses aussi, si on veut mettre en place, c'est clair qu'il faut d'abord essayer de connaître, pas tout connaître, connaître quelques éléments, mais aussi en parler, discuter avec les élèves de différentes langues, de différentes choses qu'ils connaissent, valoriser leur culture, valoriser leur façon de faire, et ça développe non seulement l'estime de soi, mais le sentiment d'appartenance.
J'aime ça beaucoup et j'aimerais savoir quel serait le danger de ne pas prendre cette approche.
Un, ne pas créer un lien avec les élèves. Les élèves peuvent se sentir dénigrés. Et puis ça, c'est quelque chose sur lequel les chercheurs se sont basés, c'est que si on ignore le bagage de l'élève, on ignore d'où est-ce qu'il vient, on ignore sa culture, et puis on essaie d'effacer ça, il y a le sentiment de ne pas appartenir, donc se sentir dénigré et non inclus. Ça peut créer des comportements qu'on pourrait dire que c'est indésirable, des comportements qu'on ne veut pas nécessairement avoir, des comportements qui peuvent être agressifs, ou s'isoler, s'enlever de cet environnement qui le dénigre.
Mais je sais que toi, Mariam, tu as beaucoup déménagé dans ta vie, tu as vécu dans plusieurs pays. Quand tu as changé de région, quand tu étais jeune, est-ce que tu as un souvenir d'avoir changé d'école? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait sentir acceptée ou bien le contraire?
Les deux. Il y avait des choses qui me faisaient sentir complètement exclue et différente, comme le fait que je m'habillais différent, le fait que mon accent était différent parce qu'on a différents dialectes, donc mon dialecte était différent et puis on pouvait un petit peu se moquer de moi des fois par rapport à mon accent ou à mon dialecte. Et en même temps, le fait que je me faisais inviter partout, qu'on m'a ramené de la nourriture pour essayer, des choses comme ça, c'était... Là, je me sentais plus accueillie et plus... Je faisais plus partie de la communauté locale.
Est-ce qu'il y a quelque chose que l'école ou que ton enseignant ou enseignante aurait pu faire pour que cette transition soit plus facile pour toi?
Probablement. C'était une région, même si je suis nord-africaine et on parle quand même fort, mais dépendamment des régions, ça peut être plus fort ou moins fort. Et puis le langage, puisque c'était une région rurale, je pense que c'est un petit peu pareil partout, c'était plus des fermiers et tout. Ça parlait plus fort et c'était un petit peu plus rude. Souvent, je me sentais agressée par les enseignants. Même si l'intention était bonne, et puis je le sais que c'était une bonne intention, parce qu'ils essayaient de m'intégrer, mais ils essayaient de m'intégrer à leur façon de faire et non pas prendre en considération mon bagage à moi. Donc oui, c'est sûr qu'il y avait des choses qui auraient pu être faites à ce niveau-là à l'époque.
si je peux me permettre de juste faire un commentaire, je trouve ça tellement intéressant, Myriam, que ce que tu as dit, toutes les stratégies que tu avais proposées au début, comme si de connaître les élèves, que d'établir le lien, de créer un sens d'appartenance. Et le fait de dire que tu peux pas connaître toutes les cultures parce que c'est absolument impossible de le faire, c'est intéressant parce que on est quatre ici et on n'est pas vraiment dans les quatre coins du conseil, mais on est quand même très dispersés d'un ou l'autre avec des profils qui sont vraiment différents. Le corps étudiant, le corps élève de où est-ce que Jennifer habite est très différent de où est-ce que moi j'habite. Puis, alors, moi, je trouve ça tellement merveilleux parce que ce sont vraiment des stratégies gagnantes qui est vraiment des stratégies de base que tout le monde devrait utiliser pour pouvoir rejoindre tous les élèves, que ce soit leur culture, puis que ce soit qu'on connaît beaucoup ou non, qu'on soit à l'aise ou non avec la culture.
Oui. En passant, il y a une ressource, je sais qu'on va parler probablement des ressources plus tard, mais il y a une ressource qui est assez intéressante, qui nous donne des informations sur différents pays. Ça s'appelle « Diverses racines, diverses voix ». C'est comme un résumé de différentes choses, situations politiques, langues, monnaie utilisée, plats connus du pays. Puis, c'est pas pour tomber un petit dans la folklorisation de la chose et puis avoir, c'est pas parce qu'on connaît 4-5 choses d'un pays qu'on connaît le pays où on peut comprendre d'où viennent les choses, mais ça nous donne un petit aperçu. Juste le fait de parler aux élèves, d'utiliser une petite référence par rapport à son pays, ça lui donne le sentiment que tu t'intéresses à lui. Et puis, les projets, c'est une très bonne façon d'intégrer la pédagogie sensible à la culture dans la classe. Faire des projets et puis aller chercher des éléments de différents pays, de différentes cultures, donner le choix. Ça rentre aussi dans la différenciation. Donc, si on veut différencier, on va aller chercher les intérêts des élèves et on va essayer de donner l'occasion de l'élève de choisir, par exemple, sur quoi il voudrait faire son projet ou de quelle façon il voudrait présenter et tout. Puis ça on sait que ça va chercher les élèves plus que de donner des lignes strictes ou des directives plus strictes.
Les études sur le cerveau disent que pour qu'un enfant se sente, pour que les apprentissages restent, il faut que ça passe par l'émotif. Il n'y a rien de plus émotif pour les enfants que leur famille, l'appartenance par rapport à ce sur quoi ils ont grandi, les origines de chacun. Alors, c'est ultra émotif. Alors, si on permet à l'enfant que dans la vague de prendre ça pour pouvoir enchérir certains apprentissages, ben, je pense qu'on est gagnant sur toute la ligne. Est-ce que tu es d'accord avec moi?
Tout à fait d'accord, oui. Et c'est ça le point. On renchérit sur ce qui était là. Et puis, les motifs, c'est très important. Et c'est pour ça que quand Jen m'avait posé la question par rapport à c'est quoi les conséquences de ne pas prendre ça en considération, ben, c'est les motifs qui en souffrent. Et si les motifs en souffrent, on a des réactions, on a des comportements. Et puis, l'apprentissage ne se fera pas de toute façon.
J'ai déjà eu la question de la part d'un enseignant. Si l'élève arrive dans ma salle de classe, puis dans sa culture, c'est irrespectueux de regarder l'enseignant dans les yeux. C'est une autorité et ça manque de respect. Mais ici, c'est le contraire. Mm-hmm. Est-ce que j'enseigne à l'enfant qu'ici au Canada, on se regarde dans les yeux ou je respecte sa culture et j'accepte qu'il ne me regarde pas?
C'est une très bonne question.
Et on peut l'accepter si tu ne veux pas y répondre.
Non, je n'ai pas une réponse à 100% comme étudiée, mais je pourrais... Par rapport à ce que j'ai lu, je pourrais dire que prendre en considération le fait que ce n'est pas respectueux déjà, ce n'est pas un manque de respect envers l'enseignant. C'est déjà on enlève le côté le biais inconscient qui va nous guider vers dire cet élève manque de respect. Cet élève est irrespectueux. Et puis on catégorise cet élève-là. Maintenant. Quand on va discuter des coutumes, on peut dire que ici c'est pas du manque de respect que de regarder dans les yeux. Donc je te permets de me regarder dans les yeux une fois que tu vas te sentir confortable de le faire. Donc c'est un peu accepter, proposer et puis
l'élève va s'ajuster. Donc, on va s'ajuster de toute façon à un certain moment à la culture dans laquelle on vit. Mais il y a des choses qui sont tellement ancrées dans nous que c'est difficile de s'en défaire et d'autres choses qui sont plus faciles à changer. Puis ça, le contact visuel, ça fait partie de la culture profonde qui a une charge émotionnelle plus forte. Donc, le fait d'essayer de changer ça tout de suite ne va pas nécessairement bien fonctionner.
Ouais. Je trouve que c'est tellement intéressant. Puis moi, même au début, quand tu avais commencé à répondre à la question, j'étais comme, ben ici, c'est vraiment la flexibilité qui règne. Comment est-ce qu'on peut être flexible? Comment est-ce qu'on peut vraiment prendre en considération? Puis premièrement, la première étape, c'est de comprendre où est-ce qu'il s'en vient, d'où est-ce qu'il vient, c'est quoi la culture. Puis après ça, essayer, comme on l'avait dit, de l'outiller avec d'autres perspectives.
Ça rajoutait le mot perspective et puis c'est important aussi parce que c'est outiller l'élève et lui donner la perspective que respecter, valoriser. Ok, je comprends que tu ne me regardes pas. D'un autre côté, je ne veux pas te forcer nécessairement à me regarder, mais regarde, c'est pas toujours un manque de respect. Dans ce contexte-là, c'est pas un manque de respect si tu me regardes.
Myriam, on sait qu'il y a des élèves dans nos classes, puis souvent on parle, tu sais, des élèves qui viennent d'arriver, qui sont peut-être des réfugiés, qui auraient vécu des traumatismes. Il faut être conscient du fait aussi qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe lorsque les élèves ne sont pas à l'école. Il est aussi probable que des élèves qui viennent d'ici aient vécu des traumatismes. Mais comment est-ce qu'on peut tenir compte de ça?
Je ne suis pas vraiment une spécialiste des traumatismes, donc il y a des personnes qui seraient beaucoup plus aptes à en parler en détail. Cependant, en tant qu'enseignant, il faut être conscient du fait que des élèves peuvent avoir des traumatismes, qu'ils viennent d'ailleurs ou qu'ils soient d'ici, et que ça a un impact. Et puis, comme on disait tout à l'heure, tout passe par les émotions, et si on ne prend pas ça en considération, on risque d'aller dans une autre, différente analyse de la situation. Donc si, par exemple, on a des élèves qui sont des enfants de réfugiés, qui ont vécu des choses qu'on ne peut même pas imaginer, et puis ils arrivent en classe avec ce bagage-là. Encore, essayer de discuter avec l'élève, essayer de voir ce qu'il y en a. Dans le processus d'accueil des élèves, il y a des questions qui devraient être posées pour essayer de voir c'est quoi les choses qui ont été vécues par la personne. Et puis, diriger l'élève vers les ressources, vers les personnes ressources qui sont compétentes dans le domaine. Ça ne veut pas dire que nous, on va être capable de gérer le traumatisme, mais plus diriger vers les travailleurs sociaux, vers les personnes qui sont compétentes dans le domaine.
J'aime beaucoup ta réponse parce que c'est vrai qu'on n'est pas spécialiste, puis ça prend une éducation puis un bagage spécial pour être bien placé pour aider ces élèves-là. Mais en même temps, je pense que parfois, comme tu avais dit, certains comportements, certaines attitudes, certaines difficultés peuvent être mal interprétées. Puis il me semble qu'il y a un beau guide qui parle des traumatismes, qui peut nous donner au moins des pistes.
Oui, Jennifer, il y a un guide du Centre Franco qui s'appelle « Pour une pédagogie sensible à l'impact des traumatismes sur l'apprentissage, nourrir la résilience ». Donc, ça pourrait être une ressource pour aider à gérer des situations où on a des élèves qui ont vécu des traumatismes.
En parlant de ressources, Myriam, s'il y a un enseignant qui veut se renseigner plus sur la pédagogie sensible à la culture, est-ce qu'il y a une ressource que tu pourrais leur suggérer?
Oui, il y a plusieurs ressources que je pourrais suggérer. Donc, il y a le site psac.lecentrefranco.ca. C'est un site pour une pédagogie sensible à la culture qui est plein de ressources et plein de liens et de suggestions de projets. Il y a aussi le site Elodil, C'est un acronyme qui signifie éveil au langage et ouverture à la diversité linguistique. Et puis, il permet aux enseignants qui œuvrent dans des milieux comme celui dans lequel j'ai œuvré, pluriethnique et plurilingue, d'utiliser les compétences interculturelles pour gérer ce genre de contexte. Il y a aussi le site Kaléidoscope. Ça contient une sélection de livres. Donc, il contient plus que 400 livres, je pense, sur la promotion de modèles et de comportements égalitaires. Ils sont regroupés par âge et puis on y a accès. Il y a un site qui s'appelle Kamishibai Plurilingue. Et puis, ça, c'est par rapport à des projets Kamishibai. Puis, les projets Kamishibai, c'est des théâtres en papier qui sont réalisés par des élèves de plusieurs pays. Et puis, ça raconte des histoires en utilisant au moins 4 langues, en incluant la langue de scolarisation. Donc, ça permet aussi de valoriser les langues parce que une des choses qui est promu par la pédagogie sensible à la culture, c'est de prendre en considération le bagage langagier des élèves, puis de construire sur les langues. Parce que quand on connaît une langue, on peut utiliser des compétences qui sont reliées à cette langue-là et les transférer. Pas utiliser nécessairement la langue, mais les compétences sont transférables. Il y a aussi pour les cours d'anglais, il y a Diverse Book Finder, qui est un moteur de recherche pour les livres et puis dans lesquels on a plusieurs groupes culturels ou ethniques qui sont représentés.
Excellent! Il existe beaucoup. Et le Conseil scolaire Via Monde, est-ce qu'il y a des affaires que nous on a créées?
Ben, il y a le document ministériel qui s'appelle « Une pédagogie sensible à la culture, promouvoir l'équité et l'inclusivité dans les écoles de l'Ontario ». Et puis ça, c'est un document qui détaille un petit peu la pédagogie sensible à la culture, pourquoi et le comment, en les grandes lignes. Et puis, on a une communauté dans le AV où on peut trouver aussi la présentation sur la pédagogie sensible à la culture qu'on a faite il y a quelques semaines. Et aussi, on va faire une petite capsule par rapport à la pédagogie sensible à la culture qui donne toutes les ressources et tous les liens avec Gabrielle sur la pédagogie sensible à la culture.
OK. Et ça va se trouver sur la chaîne du conseil qui s'appelle Aide Pédago, où vous pouvez trouver plein de capsules sur plein de sujets très intéressants. Bien, sur ça, on te remercie énormément, Myriam, d'avoir pris le temps de nous parler cet après-midi.
Merci beaucoup à vous.
Merci d'avoir écouté un autre épisode de Toute la classe, le balado officiel du Conseil scolaire Via Monde. La musique dans l'épisode est créée par Ralph Grant, les productions Guérin et Pottington Bear. Suivez-nous sur Twitter, @toutpour, sur Facebook en s'abonnant au groupe Toute la classe balado, ou nous envoyer un courriel à pourtoutelaclasse@gmail.com pour participer à un accompagnement en direct.